Les mille et une nuits, tome 8, chapitre 15. Histoire du roi Ibrahim et de son fils. Le roi Ibrahim avait beaucoup agrandi par ses conquêtes l'empire qu'il avait reçu de ses ancêtres et avait réduit sous son obéissance tous les rois ses voisins. Chéri de ses sujets, redouté des étrangers, tout semblait concourir à son bonheur. Une seule chose l'empêchait d'être parfaitement heureux. Quoiqu'il eût plusieurs femmes et que son sérail fût rempli des plus belles esclaves, aucune ne l'avait encore rendu père. Un jour qu'occupé de cette idée, il s'affligeait en pensant que son royaume passerait un jour dans des mains étrangères, on vint lui annoncer que celle de ses femmes qu'il aimait le plus était enceinte. Cette nouvelle le remplit de joie. Il alla aussitôt trouver la princesse, l'éleva au-dessus de toutes les autres femmes, lui donna le plus bel appartement du sérail et la combla d'honneurs et de présents. Lorsque le moment où la princesse devait accoucher fut arrivé, le roi fit venir à sa cour tous les astrologues de son royaume et leur ordonna de se préparer à tirer l'horoscope de cet enfant. La reine mit au monde un prince. On avertit aussitôt les astrologues qui dirigèrent leur astrolabe, observèrent l'état du ciel, la position des astres et dressèrent le thème de la nativité. Lorsqu'ils eurent fait tous leurs calculs, ils examinèrent quelles devaient être les conséquences de la configuration céleste qu'ils avaient déterminée. Ils avaient à peine commencé cet examen que le roi les vit changer de couleur. « Qu'y a-t-il ? » leur dit-il. « Faites-moi part de tout, ne me déguisez rien. »« Prince, » lui dit l'un d'eux, « l'horoscope de cet enfant nous indique que jusqu'à l'âge de 7 ans, il court risque d'être dévoré par un lion, et que s'il échappe à ce danger, il est réservé à un malheur plus grand et plus affreux. » Les astrologues ne voulurent pas s'expliquer davantage, mais le roi leur ordonna de nouveau de lui découvrir tout. « Prince, reprit l'un des astrologues, promettez-nous de ne nous faire aucun mal. » Le roi, en ayant donné sa parole, « Cet enfant, continua l'astrologue, après avoir échappé à la fureur du lion, doit ôter la vie à son père. » Le roi pâlit à ces mots et demeura quelques instants interdit. S'étant ensuite remis, il congédia les astrologues et dit en lui-même, « Il me sera facile de faire garder soigneusement mon fils et d'empêcher qu'aucun animal n'approche de lui. Je pourrai pareillement garantir ma personne et empêcher qu'il n'attente à mes jours. Les prédictions des astrologues sont souvent fausses et celle-ci le sera certainement. » Le roi Ibrahim, rassuré par ses réflexions, donna au prince une nourrice, défendit qu'on le fît sortir de son appartement et plaça alentour une garde nombreuse. Malgré ses précautions, la prédiction des astrologues lui donnait des inquiétudes et troublait le bonheur de sa vie. Pour mettre encore plus son fils à l'abri des attaques du lion, il imagina de faire pratiquer secrètement une retraite sur le sommet d'une montagne inaccessible. Il y fit creuser un vaste souterrain distribué en plusieurs salles. Il les remplit de toutes sortes de provisions et autres choses nécessaires à la vie, et y fit passer une source d'eau vive qui coulait au haut de la montagne. Ce souterrain ne communiquait au dehors que par une ouverture semblable à un puits par laquelle on fit descendre l'enfant avec la nourrice. Le roi se rendait tous les mois sur le bord de l'ouverture et appelait la nourrice. Elle mettait l'enfant dans une corbeille de joncs et le faisait monter au moyen d'une poulie. Le roi le recevait, l'embrassait, lui prodiguait 1000 caresses et le remettait ensuite dans la corbeille. L'enfant avait passé plusieurs années dans ce souterrain et était près d'avoir 7 ans. 20 jours seulement restaient encore jusqu'à cette fatale époque, lorsque des chasseurs qui poursuivaient vivement un lion l'obligèrent de se réfugier sur cette montagne. Se voyant pressé de plus en plus par les chasseurs et les chiens, l'animal gagna le sommet et tomba dans le souterrain. Il se jeta d'abord sur l'enfant et le blessa grièvement à l'épaule. La nourrice étant accourue à ses cris, le lion se jeta sur elle et la mit en pièces. Cependant, les chasseurs étant parvenus à l'endroit où le lion avait disparu, entendirent les cris de l'enfant et de la nourrice. Ils s'approchent de l'ouverture du souterrain, aperçoivent le lion et font pleuvoir sur lui une grêle de traits et de pierres. L'animal accablé est bientôt étendu sans vie. Plusieurs des chasseurs descendirent alors par la corde dans le souterrain. Ils furent étonnés de trouver une femme mise en pièces et un enfant baigné dans son sang et sans connaissance. Ils le relevèrent, le rappelèrent à la vie et pansèrent sa blessure. Les chasseurs parcoururent ensuite le souterrain et le trouvèrent rempli de provisions de toute espèce, de meubles précieux et de riches habillements. Résolus de s'emparer de tous ces effets, ils commencèrent à les attacher à la corde et à les enlever du souterrain avec le secours de ceux de leurs compagnons qui étaient restés en haut. Ils firent aussi sortir l'enfant et l'emmenèrent avec eux. L'un des chasseurs, vivement touché de son sort, le prit chez lui, se chargea d'en avoir soin et de le faire guérir de sa blessure. Lorsque le jeune prince fut en état de répondre aux questions qu'on pouvait lui faire, le chasseur lui demanda quels étaient ses parents et par quelle aventure il s'était trouvé dans le souterrain. Mais il ne put lui dire autre chose, sinon qu'il n'était jamais sorti de ce lieu, que sa nourrice lui donnait tout ce dont il avait besoin, que tous les mois quelqu'un venait à l'ouverture du souterrain, qu'on le faisait monter dans une corbeille, et qu'il embrassait l'inconnu, qui le serrait dans ses bras, le caressait, et le faisait ensuite redescendre. Le chasseur, sans s'embarrasser davantage de connaître la condition de cet enfant, continua d'en prendre soin. Et l'inclination qu'il s'était d'abord sentie pour lui, augmentant de plus en plus, il s'appliqua à lui donner une éducation telle qu'il aurait pu la donner à son propre fils. Il le fit instruire dans toutes sortes de sciences, lui apprit à monter à cheval et à manier les armes. L'enfant montra beaucoup d'adresse dans ces divers exercices, et à l'âge de 12 ans, il sortait avec son bienfaiteur et l'accompagnait à la chasse. Un jour, qu'ils étaient très éloignés de leur demeure, ils s'égarèrent et furent attaqués par des voleurs. Le jeune prince vit tomber à ses côtés son bienfaiteur, fut lui-même renversé d'un coup de lance et laissé pour mort. Les voleurs prirent tout ce qu'ils avaient sur eux et s'enfuirent. Le jeune prince, quoique dangereusement blessé, n'avait cependant pas entièrement perdu connaissance. Au bout de quelques heures, il ouvrait les yeux, rassembla ses forces et se releva. À peine avait-il fait quelques pas qu'il aperçut de loin un de ces hommes qui parcourent les lieux écartés avec une pelle et une pioche sur l'épaule et cherchent de tous côtés des trésors. Celui-ci, frappé de la bonne mine du prince et touché de l'état dans lequel il se trouvait, suspendit la recherche dont il était occupé, s'avança vers lui et lui demanda qui il était et comment il se trouvait réduit dans cet état. Le prince lui raconta en peu de mots son histoire et lui dit qu'il venait d'être attaqué par des voleurs qu'il avait dépouillé et laissé pour mort. L'homme au trésor, ayant entendu l'histoire du prince, l'engagea à le suivre et lui promit de le guérir promptement. Il le conduisit à son habitation, pansa ses blessures et y appliqua des simples dont il connaissait la vertu. Le prince étant parfaitement rétabli, son hôte lui dit « Réjouissez-vous, jeune homme, vous ne pouvez faire une rencontre plus heureuse que la mienne. Je connais un trésor qui renferme des richesses immenses. Si vous voulez venir avec moi, m'aider à en retirer quelques-unes, je vous donnerai de quoi vivre désormais dans la plus grande opulence. » Le jeune prince ayant accepté la proposition, son hôte prépara plusieurs bêtes de somme, prit des instruments et tout ce dont il avait besoin. Ils partirent ensemble et, après avoir marché plusieurs jours, arrivèrent au haut d'une haute montagne. L'homme au trésor prit un livre qui renfermait les indications nécessaires pour reconnaître les lieux, le lut attentivement et se mit ensuite à fouiller sur le sommet de la montagne. Lorsqu'il fut parvenu à la profondeur de 5 coudées, il découvrit une large pierre. Il la dégagea de tous les côtés et la souleva avec le secours de son compagnon et par le moyen d'une pince autant qu'il était nécessaire pour pouvoir regarder et descendre dans le puits auquel elle servait de couvercle. Lorsque la pierre fut assez levée, l'un d'eux la cala solidement. Ils regardèrent alors dans le puits et virent qu'il était rempli de richesses. Le jeune prince voulait descendre aussitôt dans le puits, mais son hôte lui dit qu'il fallait un peu reprendre haleine et laisser à l'air extérieur le temps de s'introduire dans le souterrain et de le rafraîchir. Lorsqu'ils se furent un peu reposés, l'homme au trésor attacha une corde autour du corps du jeune prince, lui mit une bougie allumée à la main et le descendit au fond du puits. Lorsqu'il y fut arrivé, ses yeux furent éblouis par l'éclat de l'or, de l'argent, des pierreries dont il se vit environné. Son hôte lui descendit un panier et lui dit de le remplir de tout ce qui tomberait sous sa main. Il retira le panier quand il fut plein mit ce qu'il renfermait sur ses bêtes de somme et le descendit de nouveau. Lorsqu'il eut chargé les bêtes de somme, il retira les cales qui soutenaient la pierre et la laissa retomber. Il la recouvrit de terre comme elle était auparavant et s'en alla. Le jeune prince, qui attendait que son hôte lui descendît le panier ou la corde pour remonter, entendit tout à coup retomber la pierre. Il se crut perdu, poussa un cri et se mit à pleurer. « Quelle cruelle destinée! Quelle mort affreuse !» disait-il en lui-même. « J'ai échappé à la fureur d'un lion, je suis sorti du souterrain où j'ai été élevé, j'ai recouvré la vie que les voleurs croyaient m'avoir ôtée, et je vais finir ici, lentement mes jours, victime de la faim et du désespoir. » Tandis que le jeune prince s'abandonnait à ses tristes réflexions, il entendit un bruit semblable au murmure d'une fontaine. Il prête l'oreille, fait quelques pas, et s'aperçoit que le bruit augmente. Il s'avance toujours du même côté, entend bientôt le bruit des flots, et se trouve sur le bord d'une rivière considérable qui coulait avec rapidité. Le prince dit alors en lui-même, « Puisque je ne puis éviter la mort, il m'importe peu de périr quelques moments plus tôt ou plus tard, et j'aime mieux être tout à coup submergé que de périr lentement dans ce puits. » En disant cela, le prince se précipita dans le fleuve. La rapidité du courant et la nature de cette eau furent cause que son corps se soutint de lui-même à la surface, et qu'il se trouva, au bout de quelque temps, au milieu d'une large vallée où cette rivière sortait de dessous terre. Le jeune prince avait un peu auparavant conçu quelque espérance en voyant que l'obscurité commençait à diminuer autour de lui. Il fut ravi de joie quand il se vit transporté des cavernes souterraines sous la voûte céleste. Il grimpa sur un rocher qui s'avançait dans la rivière et gagna facilement le bord. Épuisé de fatigue, il se jeta par terre et s'endormit. Le prince se réveilla au premier rayon du jour, et n'apercevant autour de lui aucune habitation, il prit un sentier qui conduisait au haut d'un coteau. Arrivé dans la plaine, il découvrit un grand village vers lequel il porta ses pas. Les habitants s'assemblèrent bientôt autour du jeune prince et lui demandèrent qui il était et d'où il venait. La singularité de son histoire, la manière merveilleuse dont Dieu l'avait retiré de tant de dangers, leur inspirèrent de l'attachement et de l'amour pour lui. Ils voulurent qu'il restât avec eux et s'engagèrent de pourvoir en commun à sa subsistance. Mais laissons un moment le jeune prince et retournons au roi son père. Il y avait un mois que le sultan Ibrahim n'avait été rendre visite à son fils. Il était d'autant plus empressé de le voir que le terme fatal était près d'expirer et que bientôt il n'avait plus rien à craindre pour ses jours. Il comptait alors le faire sortir du souterrain et prendre d'autres précautions pour se mettre lui-même à l'abri du danger dont il était menacé. Il se rendit sur le bord de l'ouverture du souterrain et appela la nourrice selon son usage. Personne ne lui répondant, il fit descendre un de ses gens qui lui rapporta qu'il avait trouvé la nourrice mise en pièces et un lion écrasé et percé de dards, mais qu'il n'avait pas vu l'enfant. Le sultan Ibrahim ne douta pas que son fils n'eût été dévoré par le lion. Il se frappa le visage et répandit un torrent de larmes. De retour dans son palais, il fit venir les astrologues et leur annonça l'accomplissement de leur fatale prédiction. « Prince, répondirent les astrologues, vous n'êtes pas assuré de ce qui est arrivé. Si votre fils a été dévoré par le lion, il a subi sa malheureuse destinée et vous n'avez rien à craindre de lui. Mais s'il a trouvé moyen de s'échapper, vous devez appréhender que sa main ne tranche le fil de vos jours. » Le sultan, se croyant trop certain de la mort de son fils, fit peu d'attention au discours des astrologues. Et le temps le lui fit bientôt oublier entièrement. Le village où s'était retiré le jeune prince appartenait au sultan son père. Les habitants s'étaient soulevés plus d'une fois contre lui, et plusieurs d'entre eux, accoutumés à porter les armes, sortaient souvent pour faire des courses dans les environs et piller ceux qu'ils rencontraient. Le sultan, informé de ces brigandages, résolut de les réprimer et d'empêcher qu'ils ne pussent se renouveler à l'avenir. Il rassembla quelques troupes et se mit à leur tête dans le dessein d'investir le village et de s'emparer des plus coupables et de désarmer les autres. Les habitants du village, croyant n'avoir affaire qu'à quelques soldats sans chef et ignorant que le roi lui-même marchait contre eux, voulurent repousser les premiers qui se présentèrent. Le jeune prince, s'étant saisi d'un arc, en décocha une flèche qui alla frapper le sultan et le blessa mortellement. Les paysans, ayant bientôt reconnu à qui ils avaient affaire, mirent bas les armes. On s'empara de ceux qui avaient fait le plus de résistance et on les conduisit au sultan. Ce prince, occupé du danger où il était, ordonna qu'on les retint prisonniers et qu'on fît venir les astrologues. Lorsque les astrologues furent arrivés, le sultan leur dit « Vous m'aviez prédit que je périrais par la main de mon fils, et cependant c'est un de ces mutins qui m'a blessé. » Les astrologues répondirent au sultan sans s'étonner. « Prince, votre fils était peut-être parmi ces mutins, et vous a lancé la flèche qui fait craindre pour vos jours. » Le sultan fit venir les mutins et leur promit de leur faire grâce s'ils lui découvraient celui qui avait lancé la flèche. « C'est ce jeune homme, lui dirent-ils aussitôt en montrant le jeune prince. » Le sultan lui ordonna de s'approcher et lui demanda quel était son père et ce qu'il avait fait depuis l'enfance. « Prince, répondit-il, je n'ai jamais connu mon père. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été élevé dans un souterrain où une femme qui m'avait nourri prenait soin de moi. Un lion tomba un jour au milieu de notre demeure, se jeta sur moi et m'enleva un morceau de l'épaule. Il me lâcha ensuite, fondit sur ma nourrice qu'il mit en pièces et fut tué par des chasseurs qui me firent sortir du souterrain et m'emmenèrent avec eux. » Le sultan, sans chercher à en apprendre davantage, demanda au jeune homme de lui montrer la morsure du lion. Le jeune prince, la lui ayant montrée, « Tu es mon fils !» s'écria-t-il en le serrant dans ses bras. Il fit aussitôt assembler les grands de son royaume et leur dit « Ce que Dieu a déterminé ne peut manquer d'arriver. En vain on voudrait s'opposer à ses décrets. Chacun doit s'y résigner humblement. Mon fils n'a fait qu'obéir à sa destinée. J'ai moi-même subi la mienne. Rendez grâces à Dieu puisqu'il a conservé mon fils et que mon royaume ne passera pas dans des mains étrangères. » Ibrahim embrassa de nouveau son fils et lui raconta pourquoi il l'avait fait élever dans le souterrain. Il prit ensuite sa couronne, la plaça sur la tête de son fils et le fit reconnaître pour son successeur par tous ceux qui étaient présents. Le jeune prince ayant été reconnu roi, son père lui donna des conseils pour administrer sagement son royaume, après quoi il ne songea plus qu'à se préparer à la mort en bénissant Dieu d'avoir conservé l'héritier de sa couronne. Le nouveau roi prit, après la mort de son père, les rênes de l'État. Il avait été instruit à l'école du malheur et de l'adversité et se montra digne du rang où sa naissance l'appelait. « Ainsi, ô roi, continua le jeune ministre, autrefois chéri d'Adzabart, mon sort dépend entièrement des décrets du ciel. Mes discours, les histoires, les paraboles que je raconte à votre majesté ne peuvent pas plus me sauver que la haine de vos vizirs ne peut me faire périr. » Adzabart, plus incertain qu'il ne l'avait encore été, resta quelque temps immobile, les yeux fixés contre terre et sans dire un seul mot. Le jeune homme, debout devant lui, attendait tranquillement ce qu'il allait prononcer. Le roi, après avoir réfléchi longtemps, fit signe qu'on le reconduisit en prison. Le lendemain, ou le dixième jour depuis la détention du jeune ministre, était un jour de fête dans tout le royaume. Dans cette fête appelée Mirjan, les grands et le peuple se présentaient successivement devant le roi, lui offraient leurs hommages et faisaient des vœux pour la durée de son règne. Il se retirait ensuite pour se livrer à la joie et aux plaisirs auxquels le jour était consacré. Les vizirs jugèrent la circonstance favorable et résolurent d'en profiter. Ils allèrent trouver les grands du royaume et les principaux d'entre le peuple et les engagèrent à demander au roi la mort du jeune ministre. Tous y consentirent. Ils se présentèrent devant le roi et lui firent les compliments d'usage. Le roi, leur ayant distribué des grâces, comme il avait coutume de faire selon le rang que chacun occupait, et voyant qu'ils ne se retiraient pas, jugea qu'ils avaient quelque chose de plus à lui dire et leur parla ainsi. « Expliquez-vous librement, j'aime à entendre en tout temps la vérité, et cette circonstance, en me rapprochant de toutes les classes de mes sujets, me fournit une occasion de m'entretenir avec eux dont je suis jaloux de profiter. » « Sire, dit alors l'un d'entre eux, nous bénissons le ciel de nous avoir fait naître sous votre empire. L'équité, la sagesse, la prudence éclatent dans toutes vos actions. Tous vos sujets vous louent et vous admirent, mais il faut vous ouvrir ici leur cœur. Ils s'étonnent que vous prolongiez de jour en jour l'existence d'un jeune homme que vous avez comblé de bienfaits et qui vous a indignement trahi. Il est entre vos mains, la loi exige qu'il périsse, et vous prêtez sans cesse l'oreille à ses discours trompeurs. Vous ignorez sans doute que tout le peuple s'entretient de cette affaire, et s'étonne d'une indulgence qui peut avoir les suites les plus funestes. Au nom de la justice, du respect dont nous sommes pénétrés pour votre personne sacrée et pour celle de votre auguste épouse, au nom du repos et de la tranquillité publique, nous vous demandons de ne pas différer plus longtemps la punition du coupable.
Je ne doute pas, répondit le roi Azabart, que ce que je viens d'entendre ne vous ait été dicté par votre amour et votre attachement pour moi.
Le conseil que vous me donnez est sage, mais des raisons particulières m'ont engagé à tenir dans cette circonstance une conduite différente, et ma puissance est trop bien affermie pour pouvoir être ébranlée par le retard apporté à l'exécution d'un coupable. Je pourrais, si je voulais, faire périr la moitié de ceux qui sont ici. Comment donc hésiterais-je à faire périr un jeune homme que je tiens en ma puissance, dont le crime n'est que trop prouvé et dont le crime mérite la mort? Mais la grandeur même du crime me fait retarder sa punition. Je ne prolonge la vie du coupable que pour pouvoir lui reprocher son forfait et en faire voir de plus en plus l'atrocité. Je soulage par ces reproches répétés et le ressentiment que tout mon peuple doit avoir de mon injure.
Le roi Azabart ordonna alors qu'on fît venir le jeune homme. « J'ai trop longtemps, lui dit-il, différé ton supplice. Tout le peuple murmure et blâme ma conduite. Le mécontentement s'est fait entendre jusqu'au pied de mon trône. Je dois aujourd'hui satisfaire l'indignation publique et je ne veux plus entendre tes discours. »
« Ô roi, reprit le jeune homme, je suis cause, dit-on, que votre peuple murmure contre vous. Mais si le peuple s'entretient de cette affaire, ce n'est qu'à l'instigation de vos vizirs. Eux seuls fabriquent et répandent les bruits injurieux qu'ils font ensuite parvenir jusqu'à vous. Mais j'espère que Dieu fera retomber sur eux leur perfidie et leur méchanceté. Pourquoi le roi se hâterait-il de me faire mourir? Je suis dans sa main, comme l'oiseau dans celle du chasseur qu'il a pris. Il l'étouffe s'il le veut, et lui donne sa liberté s'il le veut. Ce délai même dont on murmure ne vient point du roi, mais de celui qui est l'arbitre de la vie et du trépas. Si l'instant de ma mort eût été marqué plus tôt, toute la puissance du roi n'aurait pu le reculer, de même que toute la malice de vos vizirs ne peut l'avancer. C'est ce qu'éprouva le cruel Balavan, fils aîné du roi Soleyman Shah. Toute sa haine, tous ses attentats contre la vie du jeune prince son neveu furent inutiles. Dieu le retira des portes du trépas et lui conserva la vie jusqu'au terme marqué par ses décrets.
« Toutes tes ruses et tous tes discours, dit Azabart, seront bientôt inutiles. Je veux bien encore entendre le récit de cette histoire. »
Le jeune homme continua de parler en ces termes.